Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
Martineau,
Cube Radio.
Vendredi 9h45, je discute avec l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, collaborateur ici à Cube Radio, Christian Rioux. Bonjour Christian.
Bonjour Richard.
Alors, Mathieu Bock-Côté est chez vous, il est à Paris là, pour le lancement de son livre. Est-ce que vous allez pouvoir vous voir un peu dans un parc à 2 mètres de distance?
Ben, écoutez, il semblerait que oui. Il semblerait que oui. J'ai eu confirmation de ça ce matin. Vous savez que Mathieu, ici, fait la une du Figaro magazine,
hein? Ben oui, c'est incroyable.
Du Figaro, c'est assez fascinant. C'est assez extraordinaire. Je pense que Mathieu, en tout cas, est probablement pas loin d'être l'intellectuel québécois le plus lu, en tout cas, à l'étranger, hors de chez nous.
Ben oui, puis il est avec Sonia Mabrouk, c'est pas rien, oui. Là, c'est une femme extrêmement importante. Et Christian, vous avez écrit il y a quelques jours un texte qui me fascinait sur toute cette commémoration là, concernant le bicentenaire de la mort de Napoléon. Ça devient des terrains minés maintenant, ces histoires de commémoration, parce que, bon, on sait, Napoléon, pour certains, c'est un dictateur sanguinaire, c'est un esclavagiste. Donc, on marche sur la pointe des pieds, là.
Écoutez, on marche sur la pointe des pieds dans certains milieux, mais je vous dirais que en général, Napoléon, c'est le personnage historique le plus français, le plus connu à travers le monde et le plus, le plus estimé. Il y a une admiration véritable pour Napoléon dans les milieux normaux, je vous dirais, et partout à l'étranger. Hein. Vous savez qu'en Russie aujourd'hui, il y a des centres d'études de Napoléon, il y a des professeurs qui disent ça, les meilleurs experts de Napoléon sont au Royaume-Uni. L'Italie a créé un comité pour la commémoration du 200e anniversaire de la mort de Napoléon, vous voyez. Donc, c'est vrai que dans certains milieux, puis c'est des milieux, je pense, relativement restreints, où on a une espèce de vision d'histoire qui est une vision entièrement liée aux préoccupations actuelles, qui sont évidemment la question des femmes, le racisme, la question de la violence. Et là, on résume Napoléon à ces sujets-là, notamment l'esclavage. Hein. On sait que Napoléon a rétabli l'esclavage après que la Révolution française l'ait supprimé, mais l'ait supprimé théoriquement, parce qu'en réalité, l'esclavage n'a jamais été et jamais disparu. Et Napoléon a simplement ramené la réalité qui était celle de cette époque-là, qui était une réalité affreuse. Mais voilà, et on ne peut pas résumer un personnage aussi gigantesque que Napoléon à deux ou trois choses comme celle-là.
Est-ce qu'il mérite justement cette réputation de dictateur?
Pas du tout. Je crois pas. Écoutez, Napoléon, et je pense que les meilleurs experts le disent, Napoléon arrive, c'est l'homme qui termine la Révolution française. Et depuis des années, il n'y a personne qui sait comment achever cette révolution-là. On a eu d'abord la Convention qui fait des réformes extraordinaires, qui met sur la table des réformes démocratiques égalitaires absolument extraordinaires. Et ensuite, on a la Terreur. Et ensuite, on a l'anarchie. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, où on rétablit la monarchie? Qui aurait été possible, ce que voulaient toutes les puissances et tous les pays européens de l'époque, ligués contre la France, où on trouve une voie française. Et ça a été celle de Napoléon. Napoléon a consolidé un certain nombre de réformes de la Révolution qui seraient disparues sans lui. Donc, il crée un État démocratique, mais évidemment, il ne fait pas avec les méthodes les plus démocratiques. Vous savez, à l'époque, à Rome, Rome qui était une démocratie, normalement, une république, il y a des époques où Rome dit non, on arrête la démocratie parce qu'on s'en sort plus. Et là, on se nomme un dictateur, mais qui, pendant 5 ans, va rétablir l'ordre. Et dans 5 ans, on reprend le pouvoir et on rétablit la démocratie. C'est plutôt ce genre de personnage-là que sera Napoléon. Et je vous avouerai que si on le compare aux monarchies autour, on a un régime qui est pas du tout un régime, en tout cas totalitaire. Ça n'a rien à voir avec les régimes qu'on connaîtra par la suite.
Et ça me fait penser au film Prova d'Orchestra de Fellini, où c'est un orchestre qui en aura le bol de son chef d'orchestre qu'on trouve trop autoritaire, donc on le renvoie. Oui. On décide d'avoir un orchestre révolutionnaire sans chef d'orchestre, mais c'est la pagaille. Chacun joue dans son coin son instrument, et à la fin, ben, on demande le retour d'un chef d'orchestre qui est encore plus autoritaire que celui qu'on aurait envoyé pour établir l'ordre.
Oui, absolument. Je pense que c'est une très bonne comparaison, et on peut pas faire abstraction du fait que Napoléon est quelque part à la fois un génie militaire, parce que vous savez que les guerres que Napoléon fait au début, c'est pas celle de la fin de son règne, mais au début, ce sont des guerres qui datent de la Révolution, et parce que les monarchies autour ne veulent pas de la Révolution française, ne veulent pas de la France. Ils veulent absolument rétablir la monarchie, les successeurs de Louis XVI. C'est ça les guerres que Napoléon va régler. Napoléon va dire, écoutez, il va consolider un certain nombre d'acquis de la Révolution française, il va en supprimer d'autres, et il va surtout mettre fin à ces guerres-là. Et donc, la France était dans une situation à l'époque assez difficile. S'il n'y avait pas eu Napoléon, c'est la monarchie qui serait revenue en France. Et ça, bon, il y a des gens qui aiment la monarchie, mais moi, j'en fais pas.
Et moi, Napoléon, dans ma tête, j'ai toujours cette toile très célèbre. Je sais pas qui l'avait peinte. Est-ce que c'est Courbet? Je me souviens plus trop qui. Mais c'est le couronnement de Napoléon. Il se couronnait lui-même. Il prenait la couronne, il se la mettait sur la tête. Et en bon Québécois, là, ça se prenait pas pour un 7-Up flat, comme on dit.
Absolument, parce que vous savez que consolidant un certain nombre d'acquis de la Révolution, Napoléon pouvait pas être couronné par le pape, hein. Le pape n'était pas au-dessus de lui, et Napoléon maintient quand même l'idée que le pouvoir vient du peuple. D'ailleurs, il y aura des plébiscites à l'époque de Napoléon, il va tous les remporter. À peu près, évidemment, il y a assez peu de personnes qui votaient à cette époque-là, mais quand même, il va les remporter. Le soutien populaire à Napoléon, il n'a pas été démenti, hein, à peu près, jusqu'à la fin. Et non, c'est une étoile filante, Napoléon. Un historien que justement j'ai interrogé récemment, Thierry Lenz, me disait c'est quelqu'un dont on va se rappeler comme on se rappelle de Charlemagne à d'autres époques.
Mais il y a des échos de Napoléon aujourd'hui, c'est-à-dire Napoléon, c'est celui aussi qui allait imposer les valeurs des Lumières dans d'autres pays, hein, qui leur enfonçait dans la gorge les valeurs des Lumières sous prétexte de les libérer. Et aujourd'hui, ça c'est remis en question aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben, les Lumières et tout ça, c'est peut-être bon pour l'Occident, mais ça ne correspond pas aux valeurs des autres pays. Donc, on dirait que c'est du colonialisme, ça, maintenant.
Oui, ben écoutez, je pense que les Lumières, ça a correspondu aux visions qu'avaient les Italiens, hein, qu'avaient les Allemands, là, parce que là, on parle des Italiens, des Allemands, des Espagnols. Il y a des gens aujourd'hui en Espagne qui regardent cette histoire-là, parce qu'il y a une guerre menée en Espagne par Napoléon qui a été très 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 rude, très dure contre les Espagnols, et Napoléon a tué beaucoup de monde, effectivement, en Espagne. Mais il y a des Espagnols aujourd'hui qui disent on aurait dû peut-être s'inspirer quand même plus des idées de Napoléon. C'est-à-dire qu'on aurait pu moderniser l'Espagne à l'époque beaucoup plus rapidement si on s'était inspiré de ses idées. Et Napoléon, effectivement, ça dépend de ses guerres, pas toutes ses guerres, mais quand il entre en Allemagne, Beethoven l'attendait. Quand il entre en Italie, il y a toute une flopée de républicains qui l'attendaient et qui l'applaudissaient. Ça n'explique pas tout, mais ça montre en tout cas au moins la complexité du personnage. C'est un personnage absolument, absolument fascinant qui nous aide à comprendre toute cette époque-là, justement, qui a suivi les Lumières.
Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'un des grands spécialistes de Napoléon, c'était Ben Wilder, là, le célèbre gars qui parlait d'athlétisme et tout ça, et qui a légué, d'ailleurs, plusieurs objets qui appartenaient à Napoléon au Musée des Beaux-Arts, absolument, qu'on peut aller voir. Là. Il y a une petite...
Vous savez qu'au Québec, Napoléon a été très détesté de son vivant, notamment par le clergé, hein, parce que Napoléon sépare, je dirais, inscrit dans l'ADN français la séparation d'Église et de l'État. Vraiment, il le fait. C'est proclamé au moment de la Révolution, mais lui, il l'inscrit véritablement dans l'ADN, dans les nouvelles constitutions françaises. Et donc, notre clergé n'aimait pas du tout Napoléon. Mais après la mort de Napoléon, il y a tout un mythe de Napoléon qui va se créer créé au Québec, au Canada français à l'époque. Ma mère avait un oncle qui s'appelait Napoléon, dont le prénom était Napoléon. C'était un prénom très courant. Et on va faire de Napoléon une espèce de mythe de la résistance au monde anglo-saxon.
Et oui.
D'où peut-être l'actualité, hein, de Napoléon chez nous.
Et il y a aussi le mythe de Napoléon, c'est-à-dire l'homme petit, là, qui veut avoir énormément de pouvoir pour se venger de sa petite taille. On disait ça de Sarkozy, entre autres. Et je lisais récemment, oui, il y a un historien qui disait, non, Napoléon, c'est pas vrai qu'il était petit. Il était assez grand, ça a l'air.
Ben, il est petit selon les standards d'aujourd'hui, mais selon les standards de l'époque, Napoléon est tout à fait dans des tailles normales. Donc, et c'est vrai que les populations aujourd'hui sont beaucoup plus grandes qu'elles étaient à l'époque. Et je pense que c'est un peu anecdotique de réduire Napoléon à ce genre de détails. Oui.
Et en terminant, hier, je parlais avec Mathieu Bocoté, puis je dis, Mathieu, quand tu vas aller dans une terrasse, prends un petit verre de vin en pensant à moi. Mais il dit, mon pauvre Richard, il n'y a pas de terrasse, il n'y a plus de restaurant, il n'y a rien à Paris. Alors, ça se passe comment? Le Paris est une fête, disait Hemingway. C'est pas le cas aujourd'hui, là.
Non, Paris n'est pas tout à fait une fête. En fait, je vous dirais que Paris, en ce moment, est déserté. Évidemment, les petits commerces sont ouverts quand même, mais évidemment, les restaurants sont fermés. Il n'y a pas de terrasse. Mais les Parisiens, le week-end dernier, ont quitté Paris, se sont sauvés de Paris. Et on se balade dans les rues, et les rues sont étrangement vides. En bonne partie parce que les Parisiens qu'on oblige à faire du télétravail. En ce moment, les écoles sont fermées parce qu'on entre dans une période, on va entrer dans une période de congé. Là, on a supprimé l'école cette semaine, mais la semaine prochaine, c'est les congés. Donc, les Français se sont sauvés à la campagne.
Est-ce qu'on sait qu'à Venise, les gens sont très contents de retrouver leur ville sans tourisme, sans touristes? Est-ce que c'est la même chose? Ils sont contents d'être entre eux, les Parisiens, à Paris?
Ben écoutez, il y a un certain charme quand même à voir Paris calme, sans les touristes, mais disons que sans les terrasses et sans les restaurants, ça c'est très difficile. Mais c'est vrai que au printemps dernier, il y a eu une période comme ça où les terrasses étaient ouvertes et c'était un véritable plaisir de s'asseoir à une terrasse et de se dire au bout de 15 minutes, mais coudonc, ça fait 15 minutes que j'ai pas vu de Japonais, d'Espagnol, de touristes étrangers passé, qu'est-ce qui se passe? Et on a l'impression un peu de retrouver un Paris qu'on connaissait pas.
Ben oui, tout à fait. Ben merci beaucoup et j'espère que vous allez en profiter, Christian, du haut de cette terrasse, deux siècles vous contemple. Bon, merci Christian Rioux, bon week-end.
Oui, absolument. Et lisons sur Napoléon, c'est passionnant.
Oui, tout à fait. Merci.